Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
the meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
l'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
Ça vient ça.
Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est dans le.
Les lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Chers amis, auditrices et auditeurs fidèles des rendez-vous de l'Opéra Studio, je vous souhaite la bienvenue en ce jour un petit peu gris, mais on a le soleil dans le cœur et on va vous faire passer avec mon invité, Bruno Coury, que je salue. Bonjour Bruno.
Bonjour Sandrine.
Et on va vous faire passer, j'espère, un très agréable moment au travers d'anecdotes et puis en écoutant quelques extraits d'opéra. Mais ne partez pas en courant, vous allez voir, vous allez aimer. Alors, l'Opéra Studio, qu'est-ce que c'est ? C'est une cellule, disons, d'insertion professionnelle. C'est un petit peu archaïque comme définition. Disons que ça fait partie de l'Opéra National du Rhin. C'est une troupe de jeunes chanteurs qui sont en début de carrière. En fait, toute la vie, on a besoin d'apprendre. Donc, ils aient encore besoin d'apprendre. Oui, mais comme tout le monde dans notre métier, on apprend tout au long de sa vie d'artiste. Mais ces jeunes chanteurs, eh bien, viennent là pour faire des rencontres, pour participer à de nombreux projets qui sont portés par une très grande maison qui est l'Opéra National du Rhin. Voilà pour le cadre de cet Opéra Studio. Et commençons tout de suite avec des petites questions à mon invité Bruno, qui est baryton basse et qui a rejoint l'Opéra Studio en septembre 2023. Alors, cher Bruno, ma toute première question, peu originale mais qui est toujours intéressante, depuis quand fais-tu de la musique ?
Depuis quand ? Ben, j'en fais depuis que je suis petit, on va dire. Quand j'étais tout petit, je chantais sous la douche.
Ah, très bien, très bien.
Je sais pas si ça compte.
Ah oui,
ça
compte.
Mais par contre, depuis quand j'ai commencé à chanter un peu du lyrique ? Quand j'étais petit, j'étais dans la chorale de mon école, donc à Franklin, celui de Gonzague, une école parisienne où la chorale était extraordinaire et où le chef de chœur, Rémi Gousseau, qui est maintenant en Pologne, il m'a fait vraiment vibrer et je me souviens encore une fois, on était en tournée en Pologne et on avait chanté le cantique de Jean Racine avec le chœur et il ne comprenait pas parce que c'était en français, mais je me suis retourné pendant quelques secondes et j'ai vu que tout le premier rang était en train de pleurer. Moi, c'était vraiment des expériences extraordinaires. Et ensuite, c'est, je pense, vers 16 ans que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça de ma vie, de l'opéra. Je me suis dit, c'est extraordinaire, ce pouvoir de pouvoir chanter comme ça, faire vibrer les oreilles des gens sans micro, sans rien. Et c'est un peu ce que... C'est à 16 ans où je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et c'est à 18 ans où j'ai vraiment fait ça de manière professionnelle. Où à partir de là, j'ai décidé que ça allait être ça, le métier de ma vie.
D'accord.
Ma passion.
Donc du coup, tu as pris des cours de chant, des cours de solfège, etc., etc. Tu es allé dans un conservatoire.
Alors, tout ce qui est solfège, etc., je l'ai eu quand j'étais plus petit encore, quand j'ai fait du piano.
D'accord.
Donc, j'étais au conservatoire, j'ai fait du piano. Effectivement, je suis allé ensuite auditionner pour différents conservatoires et j'ai été pris au conservatoire de Boulogne, dans
D'accord.
le CRR de Boulogne, Billancourt.
En chant, là, cette fois.
C'est ça.
Oui, en chant, ok.
En chant. Je ne vais pas raconter tous les détails
parce que c'est un peu compliqué.
Non, mais...
nous n'avons qu'une demi-heure, mais
c'est
vas-y.
Ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis rentré dans la classe de Anne Constantin.
Oui.
J'y suis resté un an et après j'ai eu mon prof particulier, Mathieu Septier, qui est dans la garde républicaine. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des concours internationaux. Puis ensuite, je suis rentré à l'Opéra Studio du Rhin.
Et donc, pourquoi es-tu rentré à l'Opéra Studio du Rhin ? Enfin, as-tu voulu rentrer à l'Opéra Studio du Rhin ? Est-ce que tu as regardé auparavant d'autres opéras studios ailleurs dans le monde ?
Oui, bien sûr. Donc, avant d'auditionner à l'Opéra Studio du Rhin, j'ai également auditionné à pas mal d'autres opéras studios. Et j'ai beaucoup aimé l'Opéra Studio du Rhin pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était en France. Et j'aime bien également pouvoir chanter en français. C'était quelque chose que j'aimais bien. Et aussi, il y avait le côté familial, le côté sympathique avec Sandrine, qui est notre hôte aujourd'hui.
Tu ne me connaissais pas à l'époque.
Oui, mais j'avais vu quand même les quelques, je pense, quelques interviews ou quelques vidéos. Et ça m'avait enthousiasmé.
Oh,
et même quand j'ai passé l'audition, vous aviez l'air très agréable, toute l'équipe. Et ça m'avait donné envie.
Oui, c'est vrai qu'on essaie, plus sérieusement, à l'Opéra Studio et même à l'Opéra National du Rhin, de faire en sorte que les artistes, tous les artistes, soient le plus à l'aise possible. Et notamment lors des auditions. Une audition, c'est un exercice très difficile parce qu'en 3 minutes, eh bien, on doit convaincre. Et donc, on peut avoir mal dormi, on peut avoir mangé un truc qu'on n'arrive pas à bien digérer, on peut être fatigué, on peut avoir eu des soucis. Et on sait qu'une audition, c'est très difficile. Donc, on essaie toujours, mais ça dans tous les métiers, enfin dans tous les opéras en général. Hein, mais ici particulièrement, c'est vrai qu'on y fait vraiment attention. Et tant mieux que ça se ressente, parce que voilà, c'est le but. Et donc, tu as fait de la musique, donc du piano. Tu chantais d'abord sous ta douche, après tu as fait du piano. Ah non, après tu es dans un chœur, après tu as fait du piano, après tu t'es dit « je veux faire du chant, ce sera ma vie, ce sera mon métier ». Mais est-ce que dans ta famille, d'autres personnes sont des musiciens, sont musiciens ?
Alors, tout le monde est musicien, peut-être à part un peu mon père qui ne chante pas du tout. Mais tout le monde est un peu musicien dans le sens que tout le monde a été dans la chorale et tout le monde a fait du piano, donc les 3 cycles de piano, donc... Dans ce sens-là,
oui.
Mais dans le sens musicien professionnel, non, personne.
D'accord, mais tu as baigné quand même dans cette univers-là.
J'ai baigné dans la musique,
finalement. C'était propice.
Dans la musique mondiale, multiculturelle,
oui,
diversifiée,
très
tous
bien.
Les beaux mots. Mais effectivement, j'ai personne dans ma famille qui a fait de la musique à proprement parler en tant que métier. Et d'ailleurs, ça a été peut-être un peu aussi une barrière pour mes parents, par exemple, qui sont donc comme je suis d'origine libanaise, qui sont très, c'est important les études, il faut avoir un bon métier parce qu'on veut que tu vives bien, on n'a pas envie que tu galères dans la vie. Donc effectivement, il a fallu aussi que je puisse leur montrer que c'était possible, que dans la vie, il faut être excellent dans tous les cas et que moi, je voulais être excellent dans ce métier-là.
D'accord. Donc bah, écoute, tu en prends le chemin. Je te souhaite le meilleur, cher Bruno. Nous allons écouter un premier extrait. Tu as choisi 3 extraits aujourd'hui.
C'est ça.
Donc, le premier extrait, c'est un ténor. C'est Monsieur Roberto Alagna, immense ténor. Et tu as choisi comme extrait le célèbre « Ah, lève-toi soleil » que Roméo chante à sa Juliette. Nous écoutons.
Oh.
magnifique Roberto Alagna dans l'air de Roméo, de Roméo et Juliette, de Charles Gounod. C'était un enregistrement de 1994 au Royal Opera House. L'orchestre était dirigé par Sir Charles Maqueras et la Juliette de Roberto était Leontina Vaduva. Pourquoi as-tu choisi cet extrait, Bruno ?
Parce que comme tu as pu le dire, Sandrine, c'est magnifique, mais moi je dirais pas c'est magnifique. Moi je dirais que c'est un miracle. Je dirais que c'est un miracle parce que cette production, c'est un diamant pur. Ça a été fait, comme tu as dit, en 1994 au Covent Garden. Et il n'y a jamais eu depuis, et je pense pas que c'est possible de faire un plus beau Roméo et Juliette que ça. À la fin, tout le monde pleure, tout le monde est en larmes. Roberto Alagna, c'est le plus grand et le meilleur qui vivra sur cette terre, Roméo. C'était extraordinaire. Et en fait, cet extrait de l'opéra, il faut en plus l'écouter avec l'introduction musicale. Donc c'est l'acte 2, c'est le début de l'acte 2. Roméo est totalement fou amoureux de Juliette, il ne l'a pas encore vue. Et puis là, il s'approche de son balcon et il est totalement amoureux d'elle. Et là, il va lui chanter « Lève-toi, soleil ». Et c'est juste magnifique. Et l'introduction musicale, pour moi, c'est la définition de l'amour pur et innocent. C'est vraiment écouter cette version sur YouTube. C'est une version qui dure 8 minutes. Vous commencez par l'instrumental. Et l'instrumental, c'est la définition de l'amour pur et innocent.
Oh, merci Bruno, ça donne envie. Je crois que je vais retourner écouter l'extrait dans son ensemble. Alors, notre Roberto Alagna, bah c'est le nôtre parce qu'il est français, on est fiers. Roberto Alagna est ténor, toi tu es bariton basse.
Oui.
Donc la différence entre ces deux voix, est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots s'il te plaît?
Effectivement, j'aurais pu prendre des personnes dans les extraits qu'on m'a demandé de choisir qui avaient uniquement mon type de voix. Donc, alors c'est très simple pour comprendre les différents types de voix. Il y a les voix de femmes et les voix d'hommes. Chez les voix de femmes, il y a les voix de femmes aiguës, les voix de femmes graves. Pareil chez les hommes. Chez les hommes, les voix de femmes aiguës.
Non, chez les hommes, les voix d'hommes aiguës.
Pardon.
Ah, c'est pas facile, hein. Concentrez-vous. C'est pas facile, concentrez-vous.
Chez les hommes, les voix d'hommes aigus, c'est ce qu'on appelle les ténors. Il y a différents types de ténors, des ténors très légers. Roberto Alagna est un ténor lyrique léger. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les basses. Les basses, donc c'est-à-dire des voix très graves. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les barytons. Un baryton, c'est quelqu'un c'est un homme qui a la capacité de chanter dans les aigus, mais tout en ayant une voix profonde. Baryton, ça vient du mot profond. Donc, du coup, moi, j'ai une voix de ce qu'on appelle un baryton basse. C'est pour l'instant, ça va peut-être changer au fur et à mesure de ma carrière. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai une voix de baryton basse, c'est-à-dire une voix plutôt profonde, une couleur profonde, mais qui peut quand même monter dans les aigus. Mais pas aussi aiguë que Roberto Alagna, qui n'a pas également la même voix que moi et les mêmes graves.
Voilà, c'est ça. En fait, la voix est déplacée plutôt vers le grave quand on est baryton basse et la tessiture de ténor est plutôt
exactement.
Va plutôt vers les notes aiguës.
Et simplement, la raison pour laquelle j'ai voulu choisir Roberto Alagna alors que c'était un ténor, c'est parce que moi, par exemple, cet extrait-là, quand parfois je me dis, mais est-ce que j'ai envie de continuer ce métier? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? J'ai juste à écouter cette musique. Et je me rappelle pour laquelle j'ai envie de chanter.
J'ai envie d'être chanteur d'opéra.
C'est juste, ça me donne des frissons à chaque fois. C'est génial.
C'est merveilleux, ça. Je pense que personne ne pourra dire le contraire.
Et il a une diction parfaite en français. Et c'est vraiment un modèle pour moi. C'est une des personnes qui m'a donné envie de chanter. C'est pour ça que j'ai voulu le choisir.
Très bien. Merci beaucoup. Et comment imaginais-tu ton quotidien à l'Opéra Studio avant d'arriver? Comment pensais-tu que ça allait se passer à l'Opéra Studio et puis est-ce que ça s'est révélé être ce que tu imaginais ou un petit peu différent?
De manière générale, je n'anticipe pas trop en avance.
Mm-hmm.
Je vis au jour le jour. Je savais à peu près dans quoi je m'engageais quand même. Je savais que j'allais chanter tous les jours, donc ça je l'ai eu, j'ai pas eu de problème. Effectivement, je suis rentré à l'Opéra Studio. Et c'était une année assez originale, puisque je pense que tu vas en parler ensuite. On a fait la production des Fantastics, qui est au prime abord une comédie musicale, mais qu'on a mise un peu en mode opéra, c'est-à-dire avec des chanteurs d'opéra pour pouvoir toucher le plus grand monde parce que c'est vraiment très léger, très simple, très fun. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant, cette production. Et voilà, je ne sais pas si je peux dire quelque chose d'autre que ça.
Bah, si on parle de la production des Fantastiques, c'est vrai, c'était l'opéra volant de la saison 23-24 de cette saison que nous vivons encore aujourd'hui. Et cet opéra volant était accompagné au piano et à la harpe dans une version originale du compositeur Harvey Schmidt. Et effectivement, on a pris des jeunes chanteurs d'opéra pour chanter de la comédie musicale. Et je reviendrai un petit peu sur le fait qu'on n'a pas essayé de faire de l'opéra dans la comédie musicale, mais on a plutôt fait l'inverse. Le projet était plutôt d'amener des chanteurs d'opéra avec leur voix, avec leur bagage musical et technique, vers un style légèrement différent qui est la comédie musicale. Mais finalement, c'est un des aspects de ce que doit savoir faire un chanteur, finalement, parce qu'un chanteur, ça chante de la mélodie, ça chante du lead, ça chante de l'opéra, ça peut aimer chanter de la variété. Moi, j'ai vu des récitals de très grands chanteurs lyriques qui glissaient des chansons de variété dans leur programme. Donc, en fait, on abat un petit peu les frontières. Et en fait, on fait avec sa voix, on sort chaque fois l'outil qu'on a dans sa boîte à outils pour chanter dans le style qu'on est en train d'aborder. Donc, en fait, c'est vrai que c'est fantastique. C'était un petit peu surprenant quand on n'en a jamais fait et qu'on est jeune chanteur lyrique et qu'on travaille surtout de l'opéra. Voilà. Mais je dois dire que cette production était très, très sympathique, elle était très exigeante pour tous. Il y avait beaucoup de textes. Il fallait savoir bouger, il fallait savoir danser, il fallait savoir dire le texte. Évidemment, on vous a demandé de chanter. Évidemment. Voilà. Mais c'était une très, très belle expérience et je trouve que tout le monde a pu grandir grâce à ce spectacle qui a pas mal voyagé. Et à part ces Fantastiques, tu as participé à d'autres spectacles dans la saison, je pense. Le premier spectacle, je pense, c'était...
C'était Danser Schubert au XXIe siècle.
Ah oui, ça c'était intéressant, du lead donc.
Donc ouais. Effectivement, c'était un beau projet. Donc en fait, le projet, c'est assez simple. Je ne sais pas si nos auditeurs y connaissent tous, mais j'espère qu'ils le connaissent. Schubert, donc un très grand compositeur romantique, qui a fait ce qu'on appelle des leaders, donc des mélodies, mais en allemand, qui sont vraiment magnifiques. Et d'habitude, du coup, les chanteurs interprètent ces mélodies. Mais ce qu'a fait l'Opéra du Rhin, c'est qu'ils ont proposé également au ballet de l'Opéra de danser dessus. Et ils ont proposé à quelques artistes de l'Opéra Studio de pouvoir chanter. Donc, en même temps, les personnes ont pu voir et entendre Schubert.
C'est ça.
C'était vraiment beau.
Oui, c'était un très, très beau spectacle, en effet. Et tout ça, ça demande beaucoup de travail. Donc, tu parles, vous chantez en plusieurs langues. Donc là, c'était en allemand. Bon, souvent, c'est en italien.
Allemand, italien, français, oui. Anglais.
Oui, en russe aussi. Souvent, le répertoire russe qui est très, très beau également. Et quand tu dois commencer une production, un spectacle, commencer un projet musical, comment te prépares-tu? Par exemple, pour les Fantastiques, comment étais-tu préparé?
C'est très simple, on m'a envoyé durant l'été, donc après que j'ai signé le contrat et que j'ai accepté de rentrer à l'Opéra Studio du Rhin, on m'a envoyé un peu tout le texte, déjà. Donc du coup, j'ai appris par cœur le texte. Donc je suis arrivé en connaissant par cœur mon rôle, qui était le rôle de El Gallo.
El Gallo, olé.
Olé, c'est ça. Et donc du coup, voilà, ce narrateur principal qui... Et donc du coup, j'ai dû apprendre parfaitement le texte. C'était ma première préparation. Ensuite, quand je suis arrivé à l'Opéra Studio, on a pu avoir les partitions dans la bonne tonalité, etc. Et à partir de là, j'ai pu apprendre ma partie,
ouais.
Chanter, et également avec ce qu'on appelle des chefs de chant, donc ce sont les pianistes qui nous accompagnent. On a pu aussi voir l'interprétation, parce que c'est pas très compliqué d'apprendre un air. Voilà, il y a des notes, tout le monde peut le faire, mais un musicien, un chanteur, son rôle, c'est de l'interpréter.
Exactement.
Exactement. Et c'est d'où l'importance d'un chef de chant qui va nous accompagner, c'est une troisième oreille qui va nous aider à amener notre interprétation vraiment au bout.
Oui, oui, c'est ça, c'est très important. Le rôle des chefs de chant en opéra, leur rôle est primordial, de toute façon. Ça, c'est évident. Et alors, puisqu'on parle de pas de côté avec cette production des Fantastiques, cette production de comédie musicale, tu as choisi de nous faire écouter un extrait de Don Giovanni, chanté d'une manière un petit peu décalé, si on peut dire, par un très grand chanteur que tu nous présenteras tout à l'heure. Et il s'agit d'un extrait qui date de 2009 et c'est un gala. Et ce très grand chanteur s'amuse littéralement avec la sérénade de Don Giovanni. Écoutez.
Purché la sorte mi seconda, vediamo. Le finestre son queste, ora cantiamo. Se venia la finestra, o mio tesoro, che venia consolare il pianto mio. Se venia me dal cuore,
un public apparemment enchanté d'avoir bien ri en écoutant la sérénade de Don Giovanni. Bruno, quel est ce chanteur qui fait rire les foules et pourquoi tu choisis cet extrait ?
Un chanteur extraordinaire. Alors moi, on m'a demandé de choisir 3 extraits et je me suis dit, autant choisir des extraits qui, on va dire, qui me représentent. Le premier qu'on a entendu, c'est le fameux Roberto Lagna qui me fait vibrer à chaque fois, qui me donne envie de chanter de l'opéra. Le deuxième, là, on rentre dans ma tessiture vocale, un baryton basse. C'est un baryton basse extraordinaire, ultra célèbre, qui s'appelle Bryn Terfel, qui vient des pays de Galles, donc Wales. Il est extrêmement connu et ce que j'adore avec cette personne, c'est que c'est un acteur du futur. Il est extraordinaire, un acteur extraordinaire. Et la raison pour laquelle tout le monde rigole et tout le monde est en délire dans le public, c'est parce que en fait, il en fait un peu comme il veut. En fait, dans cet extrait-là, il est en train de faire la sérénade à une fille, mais en fait, il s'en fiche un peu de la fille, il fait juste la sérénade parce qu'il est habitué à le faire. Et là, il va dans le public et il le fait au public, la sérénade. Donc, il va voir certaines femmes dans le public, il y a leur mari à côté, il tourne la tête du mari et il commence à parler, à draguer chaque femme. C'est vraiment très drôle. C'est pour cette raison que j'ai voulu choisir cet extrait, c'est parce que c'est ça aussi l'opéra. C'est, en fait, au début, tu as dit que c'est un peu décalé, mais en fait, c'est ça l'opéra, finalement.
Mais oui, c'est ça.
c'est ça.
En fait, l'opéra, ça parle des gens. C'est et ça. Ce sont des humains qui parlent d'autres humains. Donc, en fait, c'est nous, l'opéra. Et parce que tous les sentiments qui sont développés à l'opéra, c'est l'amour, la jalousie, la joie, la tristesse. On parle de la mort, on parle des... Enfin, c'est la vie, finalement. Et donc, c'est sublimé parce que les musiques sont parfois... parfois sublime, effectivement. Mais on peut s'amuser, on peut pleurer de rire aussi à l'opéra. C'est très drôle. Oui. Enfin, à l'opéra, pleurer de rire à l'opéra. En fait, il faut aller plutôt vers l'opérette hein, pour pleurer de rire. Mais l'opéra, souvent, on pleure tout court. Mais bon, ou alors on pleure d'émotion parce que certains opéras seria quand même finissent bien. Mais
ça dépend quel opéra.
Oui, ça peut mal finir quand même.
Il y a quand même plusieurs opéras, surtout les opéras de Mozart,
oui.
où on rigole. Même oui. les opéras de Donizetti, par exemple, Elisir d'Amore.
Oui, c'est vrai. Tu as raison. Oui, c'est très amusant. D'autres opéras sont un petit peu plus noirs, et puis on va peut-être enchaîner avec le troisième extrait, parce que justement, on aura un contraste intéressant. C'est le Don Carlo de Verdi. Et là, tu as choisi un extrait dont tu nous parleras tout à l'heure, et qui s'appelle O Carlo Ascolta. Magnifique mort de Carlo, extrait de l'opéra de Verdi, Don Carlo. C'est un extrait qui date de 1989 et c'est la BBC National Orchestra of Wales qui accompagne le magnifique Dmitri Vorostovsky, pas facile à dire, magnifique chanteur. Et tout ce beau monde était dirigé par le maestro Richard Armstrong. Cher Bruno, pourquoi as-tu choisi cet extrait ? J'ai une petite idée de la réponse, mais je te laisse parler.
Encore une fois, moi, j'ai choisi chaque extrait parce que je me suis dit que chacun me représentait un petit peu. Et lui, parce que non seulement c'est quelqu'un qui a à peu près mon type de voix, un peu plus aigu pour l'instant, mais surtout parce que c'était, il faut comprendre qu'il chante cet air-là à un des plus grands concours internationaux d'opéra qui est BBC Cardiff Singer of the World. Et il chantait d'ailleurs avec Bryn Terfel qu'on a raconté juste avant.
Oui.
En finale, donc ça c'est la finale, et il a choisi cet air, La mort de Rodrigue, et il la chante avec vraiment avec éclat et brillance. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait, et ce qui va d'ailleurs lui valoir le premier prix. Pourquoi j'ai choisi cette musique? Parce que je ressens à travers lui la même adrénaline quand on fait des concours internationaux, et c'est pour cette raison que j'ai voulu choisir, parce que je trouve que moi aussi j'aime ça, et je voulais aussi partager aux gens ce que ça faisait de chanter en concours avec la pression, mais en même temps avec l'adrénaline qu'il y a derrière.
Oui, c'est ça. Finalement, c'est le côté positif de ce stress qui te fait aimer ça. Bon, tu passes des concours, tu travailles beaucoup, le texte est fantastique, tu l'as travaillé tout l'été, mais de temps en temps, tu te détends. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre, Bruno? Ah, je chante. Non. Si.
Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par rapport dans ma vie en général.
Oui, qu'est-ce que tu aimes bien faire quand tu n'es pas en train de travailler ou te poser des questions sur le rôle, sur la voix, sur la technique, enfin, à moins que ta vie tout entière soit remplie par ça. C'est ce qui est possible aussi, mais il y a des moments où tu te détends quand même.
C'est une bonne question. Je dirais qu'il y a plein de... Ma vie n'est pas seulement sur l'opéra. Mais c'est vrai que quand on pose la question à d'autres chanteurs d'opéra, ils vont souvent dire « Ah non, moi j'écoute plus l'opéra, je chante de l'opéra et après, dans mes temps libres, c'est fini, je ne peux rien entendre. » Moi, je ne les comprends pas, ces personnes. Pour moi, ce sont des extraterrestres. Moi, l'opéra, c'est ma passion. Ça fait partie de moi. Et quand j'ai du temps libre, sous ma douche, quand je vais dans la voiture, j'écoute de l'opéra. Parce que l'opéra, et j'aimerais bien aussi le signaler à tous ceux qui nous écoutent, si vous n'avez jamais entendu d'opéra, si c'est un peu loin pour vous. Moi, j'ai 23 ans. J'ai commencé l'opéra à 18 ans. Je n'avais aucune connaissance sur l'opéra. Si j'ai fait l'opéra, c'est parce que je me souviens encore quand j'étais petit. Je vais dire cette fois, cette phrase, je vais la dire 30 fois. Mais quand j'étais petit, je me souviens, j'étais avec mes parents, on était allés à la messe de minuit dans la cathédrale Saint-Roch, dans l'église Saint-Roch à Paris. Et je me souviens... Les cloches de minuit avaient sonné, c'était Noël. Et là, tout d'un coup, on entend le minuit chrétien entonné par un baryton qui s'appelle Philippe Brocard. Et « Minuit chrétien !» Et j'ai entendu, je me suis réveillé comme ça, je suis en train de m'assoupir, et j'entends quelque chose vibrer. Et c'était extraordinaire. Et c'est ça l'opéra. L'opéra, c'est quelque chose qui fait vibrer, vraiment. On voit des gens qui peuvent nous remplir avec leur voix, leur corps se transforme en instrument. Sans micro, sans rien, ils peuvent remplir une salle. Et c'est ça que je veux partager aux personnes, c'est que même si vous ne connaissez pas l'opéra, peut-être au début, vous allez écouter, vous dire « Ah, je sais pas. » Mais au fur et à mesure, c'est comme du vin. On en prend une fois, deux fois, et après, on commence à apprécier, et après, on peut plus s'en passer.
Oh ben, très belle définition de l'opéra, merci Bruno. Tu as tout à fait raison. Je suis pour. Je suis pour. Merci beaucoup. J'en perds mon vocabulaire.
Surtout pour l'Alsace qui a
Six bons vins, c'est ça. Si on arrive à mettre ça au même niveau, oh là là. Non, oh là vraiment, là, bravo. C'est... Non, mais c'est vrai. Venez à l'opéra, mais bien sûr. C'est vrai. Après, il y a tellement de choix de répertoire. Forcément, c'est comme dans le choix de tous les vins. Tous, ils sont bons.
Oui, et après, on choisit. Pas, voilà, peut-être qu'on commence pas par les plus. Dur pour le palais, mais
oui.
Petit à petit.
Oui, c'est ça. Et tiens, une question. Ouais. Ton premier opéra, le premier opéra que tu as écouté, est-ce que tu t'en souviens? Quel était le premier opéra?
Alors, je ne sais pas si c'était un opéra en entier. En entier, j'ai du mal à dire. Peut-être que c'était L'Elisir d'Amore de Donizetti, un opéra très facile à voir.
Oui, c'est amusant. Oui, c'est
peut-être
amusant.
Il y avait aussi Carmen et j'avais aussi écouté Les Nozze di Figaro.
C'est ça, d'accord. Moi, ça fait trois bonnes pistes pour des personnes qui voudraient commencer
à
écouter de l'opéra.
Moi, ce que je conseille toujours aux personnes qui ne connaissent pas l'opéra, allez voir Carmen en premier.
Oui,
c'est très
vrai.
Simple parce qu'en fait, vous allez là-bas avec plein de préjugés et après, vous vous rendez compte que vous connaissez déjà la moitié.
Exactement. Parce que les musiques d'opéra sont dans notre vie quotidienne.
Non, mais vraiment, les gens ne se rendent pas compte, mais ils connaissent déjà tout.
Mais bien sûr.
Donc, du coup, et c'est vrai. Et en plus, c'est touchant et en plus, c'est magnifique. Voilà, donc commencez par Carmen, et si vous voulez rire, vous pouvez aussi écouter les Nozze di Figaro, et si vous voulez rire et pleurer, vous pouvez écouter l'Elisir d'Amore de Donizetti.
Voilà, merci pour ces bons conseils, Bruno. Nous allons nous quitter, mais avant cela, je voudrais qu'on s'amuse au traditionnel portrait chinois. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, avant de commencer l'émission, il y a des questions qui sont un peu bizarres, mais je veux bien essayer de répondre à toutes. Alors, eh bien, nous y allons. La toute première question. Cher Bruno, si tu étais un animal imaginaire, qui serais-tu ?
Un animal imaginaire ?
Oui.
Une licorne.
Ah bah pourquoi pas, oui. Si tu étais un peintre.
Un peintre. Léonard de Vinci.
Oh bah c'est bien, c'est pas mal, tu as bien raison. Si tu étais un paysage.
La vallée sainte de la Cordillère au Liban. C'est une vallée magnifique où les ermites ils logent.
D'accord. Si tu étais un moment de la journée.
L'aube.
Ah oh bon? Je ne dirais rien. Si tu étais une salle de concert.
Une salle de concert. L'Opéra Studio.
Oh bah non, mais merci, mais oh là là. Si tu étais un opéra.
Si j'étais un opéra, Roméo et Juliette.
Roméo et Juliette, oui. Si tu étais un type d'art. Ah, alors, on peut penser que l'opéra. La question est toute facile. Ah bah oui, elle est toute facile pour toi, c'est très clair. C'est pas que c'est facile, c'est que c'est très clair. Si tu étais un compositeur. C'est difficile de choisir.
Je dirais Mozart.
Hein. Ah, oui, il est pas mal, il est pas mal. Si tu étais un musée.
Le Louvre.
Ouais. Si tu étais une œuvre d'art.
Roméo et Juliette.
Tu aimes bien. Si tu étais un trait de caractère.
Ambitieux.
Très bien. Et moi, j'ajouterais passionné. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à très bientôt. Nous allons clore cette émission. Chantez, écoutez de l'opéra ou toutes sortes de musique. Soyez heureux, prenez soin de vous et à très bientôt.
Les rendez-vous.
The meeting.
Les rendez-vous.
The meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous.
The meeting.
Les rendez-vous.
L'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est dans le.
Les lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.